Vous êtes française ou français et vous résidez à l'étranger? Les élections européennes arrivent à grands pas. Rendez-vous le dimanche 9 juin pour élire les représentants français au Parlement européen. Ou le samedi 8 juin si vous résidez sur le continent américain ou dans les Caraïbes. Bon vote.
France Info.
Bonsoir à tous. La lutte pour le climat a bien à voir avec les droits de l'homme. C'est la Cour européenne des droits de l'homme qui le dit en condamnant la Suisse aujourd'hui pour son inaction. L'ancien maire de Grande-Synthe, lui, n'a pas obtenu gain de cause pour faire condamner l'État français. On essaiera de comprendre la portée de tout ça avec notre expert Arnaud Gossement, avocat spécialisé en droit de l'environnement. Au menu également des informés, trois chefs d'État, le français, l'égyptien, le jordanien, qui prennent la plume pour réclamer un cessez-le-feu immédiat à Gaza. Et puis, les européennes, dans deux mois pile, le RN qui survole les sondages, la Macronie qui voit la liste Glucksmann se rapprocher d'elle dangereusement, une liste écologiste qui ne décolle pas, photographie complète en ce 9 avril avec nos informés qui sont ce soir Elisabeth Pinault, correspondante à l'Élysée et à Matignon pour l'agence Reuters, Paul Barcelone du service politique de France Info et Alban Micosi du service international, grand reporter pour France Télévisions. Bonsoir et bienvenue à tous.
Bonsoir.
C'est donc une première en matière de contentieux climatique. La Cour européenne des droits de l'homme condamne un État, en l'occurrence la Suisse, pour violation de la Convention des droits de l'homme. C'est une association de retraités suisses, les aînés pour la protection du climat, c'est leur nom, qui accusait leur pays pour leur inaction, pour son inaction sur ce sujet. 16 voix contre une, on rentrera dans le détail dans un instant. D'abord, une réaction, une voix qu'on connaît, son nom en tout cas, la militante Greta Thunberg. Ce n'est qu'un début, c'est ce qu'elle a dit ce matin, elle était à l'audience.
Ce n'est que le début en matière de contentieux climatiques. Partout dans le monde, de plus en plus de gens traînent leurs gouvernements devant les tribunaux pour les tenir responsables de leurs actions. En aucun cas, nous ne devons reculer. Nous devons nous battre encore plus parce que ce n'est que le début, car dans une situation d'urgence climatique, tout est en jeu.
Voilà pour Greta Thunberg. Deuxième réaction, et on est en débat, l'eurodéputé écologiste Karima Delli. Cette décision, dit-elle, doit aider les politiques.
On a ce Green Deal. Il n'est peut-être pas assez à la hauteur des ambitions, parce qu'on doit réellement se dire les politiques publiques doivent être alignées sur cette stratégie, notamment bas carbone. Actuellement, la feuille de route, elle n'est pas assez ambitieuse, mais elle existe. Donc, il faut se doter maintenant d'un plan de relance réel, financier pour faire cette transition, de mettre en place le Green Deal et en même temps un plan qui va accompagner les populations les plus pauvres. Parce que ce que dit cette décision, et c'est ça qui est énorme, c'est les populations les plus fragiles, les enfants, les personnes âgées, aussi les personnes en situation de précarité qui vont être les premières victimes du dérèglement climatique.
Voilà, Karima Delli, invitée politique de France Info ce soir. Bonsoir Arnaud Gossement.
Bonsoir.
Avocat en droit de l'environnement, vous êtes aussi professeur associé à l'université de Paris 1, Panthéon-Sorbonne. Comment vous définiriez-vous ce que dit la CEDH à la Suisse et au monde finalement ?
Elle cherche un équilibre, c'est le mot équilibre qui est le plus important. Elle cherche un équilibre entre d'une part la consécration d'un nouveau droit de l'homme, le droit à une protection effective des États contre les aléas du changement climatique. C'est un droit de tout individu, suisse ou non d'ailleurs. Un équilibre entre ce nouveau droit de l'homme et d'autre part la marge d'appréciation nationale des États. On est dans un régime de séparation des pouvoirs, ce n'est pas la Cour européenne des droits de l'homme, ni aucun juge d'ailleurs qui va dicter la règle de droit, qui va indiquer ce que doit être la loi. Dans cette affaire, la Cour européenne des droits de l'homme demande à l'État suisse d'être cohérent. L'État suisse, comme bien d'autres États, a affiché des objectifs ambitieux de lutte contre le changement climatique, notamment en signant l'accord de Paris de 2015. Reste à définir des moyens pour atteindre ces objectifs. Ce qu'on n'a pas fait ici, l'État suisse, c'est de définir ses moyens, et plus précisément, on peut en parler si vous le souhaitez, le budget carbone qui permet de limiter les émissions de gaz à effet de serre. Donc c'est cet équilibre ici qui est trouvé par la Cour européenne des droits de l'homme.
Si on vous suit bien, elle oblige finalement les États, en l'occurrence celui-ci, à appliquer ce à quoi ils se sont engagés, mais pas forcément au-delà.
Tout à fait. En droit, on parle d'obligation naturelle. Lorsque vous prenez un engagement, il arrive que le juge puisse vous l'opposer. Vous n'avez pas le droit de faire des promesses vaines. En l'occurrence, vous n'avez pas le droit sur la scène diplomatique internationale, lorsqu'il y a des grandes COP et des conférences des Nations Unies sur le climat, d'afficher des objectifs très ambitieux. Mais une fois revenu à la maison, lorsque vous êtes gouvernant, eh bien, de ne pas définir les moyens pour parvenir à ces objectifs. Ce qui est important avec cette jurisprudence, c'est que grâce au socle des droits de l'homme, la Cour européenne des droits de l'homme impose, ici à la Suisse, mais on imagine bien à d'autres États, d'être cohérent entre les objectifs et les moyens qui doivent être alloués pour ces objectifs.
Alors c'est vrai que c'est la première fois qu'on pose sur la table de façon aussi claire le lien entre droits de l'homme et climat. C'était pas forcément une évidence et dans le débat public, en tout cas, ça, c'est au moins une date, hein, Paul Barcelone.
Bah, alors déjà, je crois que c'est la première fois, sous votre contrôle et celui d'Arnaud Gosselin, qu'un État en tant que tel est condamné
absolument,
par la CEDH.
Absolument.
Et on se souvient que la France, par exemple, avait déjà été condamné notamment à réparer un préjudice écologique ou pour déjà ses faits environnementaux et ses questions écologiques, mais à l'intérieur même du pays, par des tribunaux administratifs,
conseil
par
d'État,
le Conseil d'État. C'est ce qu'on avait appelé à l'époque l'affaire du siècle. Donc là, c'est la première fois que c'est un pays condamné par la CEDH, ce qui renvoie évidemment au mécanisme du Conseil de l'Europe. Et d'ailleurs, j'observe que les réactions ont tout de suite été nombreuses, notamment du côté de la droite radicale suisse, qui a appelé la Suisse à sortir du Conseil de l'Europe. Mais ce que ça montre, et là où c'est intéressant aussi, cette décision de la CEDH, c'est qu'il y a une explosion aujourd'hui des affaires environnementales devant les tribunaux, et que les tribunaux sont devenus un espèce d'outil clé du combat climatique pour les militants écologistes qui n'hésitent plus à aller traîner leur propre pays devant les tribunaux climatiques, et devant les tribunaux classiques, voire aujourd'hui supranationaux. C'est en ça aussi que c'est extrêmement intéressant, c'est un nouvel outil.
L'échelon européen, Arnaud Gosselin, il est important parce que c'est vrai qu'en France, il y a eu des décisions du Conseil d'État et en l'occurrence, on pourra dire un mot aussi du fait que Damien Carême, en tout cas la mairie de Grande-Synthe, qui avait obtenu gain de cause pour faire condamner la France en France, n'obtient pas de gain de cause aujourd'hui devant la CEDH.
Oui, vous avez raison.
La question, c'est est-ce que l'échelon européen finalement sera plus efficace, plus opérant?
Non, on a besoin de tous les leviers, que ce soit les recours ou les autres types d'actions pour le changement climatique. Le niveau européen est très important parce qu'il va permettre d'harmoniser les jurisprudences nationales, puisque la jurisprudence européenne des droits de l'homme s'impose, bien entendu, non seulement aux législateurs nationaux, mais aussi aux juridictions nationales qui vont suivre cette jurisprudence, qui a été aujourd'hui en plus rendue par la grande chambre de la Cour européenne des droits de l'homme. Mais ce qui est aussi important, c'est que la Cour européenne des droits de l'homme n'a pas souhaité ouvrir les vannes du contentieux et donner la faveur à une multiplication des recours en justice. Vous l'avez dit, toutes les personnes physiques qui s'étaient présentées devant la Cour européenne des droits de l'homme, aujourd'hui, ont toutes été déclarées recevables. C'est l'association des Aînés Suisses uniquement qui a été déclarée recevable. Le message est important. Ça ne veut pas dire que vous ne pouvez pas faire de recours. Ça veut dire, si vous le faites, vous devez avoir un bagage de preuves extrêmement solide pour démontrer votre qualité de victime au sens de la Convention européenne des droits de l'homme. C'est une façon aussi de limiter les recours pour que les plus sérieux puissent émerger du lot et s'avérer véritablement productifs. C'était le cas aujourd'hui de cette association des Aînés Suisses pour le climat.
20h, 21h, France Info, les informés, Bérangère Bonte.
En compagnie ce soir de Paul Barcelone de France Info, Elisabeth Pinault de l'agence Reuters, Alban Micosi de France Télévisions et l'avocat en droit de l'environnement Arnaud Gosselin. Il y a une espèce de paradoxe, messieurs, dames, quand même, à constater que l'une des principales actions peut-être maintenant des politiques, ça va être de soutenir des recours pour prouver que les politiques sont inefficaces en matière de lutte contre l'environnement. Je ne sais pas qui veut répondre. Arnaud Gosselin, je ne sais pas si vous avez un avis là-dessus.
Oui, alors je me permets effectivement de vous soumettre. Il faut bien voir qu'aujourd'hui, la Cour européenne des droits de l'homme a condamné les États. Et trop souvent, on réduit les États à la personne de leur gouvernement. Or, un État, c'est bien plus qu'un gouvernement. C'est évidemment un appareil d'État avec son administration, les trois pouvoirs, mais c'est aussi un territoire et une population. Lorsqu'un juge, comme le Conseil d'État et aujourd'hui la Cour européenne des droits de l'homme, condamne un État, évidemment que cet État est représenté devant elle par un gouvernement et que c'est lui qui va devoir ensuite proposer des lois ou des règlements pour lutter contre le changement climatique. Mais ça oblige en réalité tout le monde, de manière commune mais différenciée. Un simple citoyen n'a pas la responsabilité d'un directeur d'une multinationale ou d'un chef d'État. Mais pour autant, il ne faut pas réduire l'État simplement au gouvernement et bien comprendre que c'est une responsabilité collective ici qui est aussi recherchée par le juge.
Et que la CEDH n'ouvre pas la porte à toutes les possibilités. Encore une fois, la requête suisse, elle est présentée par une association qui a réussi à prouver que ces personnes, ces femmes âgées de plus de 64 ans, étaient particulièrement sensibles aux problèmes de pollution et qu'elles étaient en danger elles-mêmes.
Mais c'est finalement ça qui va les contraindre, enfin contraindre l'État suisse à passer la vitesse supérieure.
Du moins, sur ce point, on va voir quelles seront les propositions de l'État suisse. C'est intéressant pour la requête portugaise, qui était une requête très très large, qui était plus générale, puisqu'elle visait 32 pays de l'Europe. Cette requête, elle a été repoussée. Alors, d'abord, pour une argument juridique toute simple, c'est que tous les tribunaux, tous les niveaux de responsabilité des tribunaux portugais n'avaient pas été encore contactés, n'avaient pas donné leur avis. Donc, on va attendre.
Les recours n'avaient pas été épuisés.
Voilà, on va attendre que ça aille au bout des recours au Portugal. Ensuite, peut-être que l'action reviendra, mais là, elle sera plus complexe parce qu'il s'agit de demander à 32 pays de se mettre d'accord sur les mesures. Là, techniquement, juridiquement, c'est beaucoup plus compliqué.
Sur ce paradoxe, Elisabeth Pinault.
De toute façon, ce qu'on retient, c'est un peu ce combat de David contre Goliath hein, qui s'est passé aujourd'hui. Après, la balle est évidemment dans le camp des États. Faire davantage pour protéger le climat et apparemment en ce moment ce n'est pas vraiment la tendance en tout cas en France, voilà, où les écologistes ne sont pas donnés très haut aux élections européennes, où le gouvernement dit qu'il fait beaucoup mais ce n'est pas encore assez. Voilà, la balle est évidemment dans le camp des États et l'histoire continue. C'est une victoire symbolique.
À votre connaissance, pas de réaction à l'Élysée?
Enfin, non.
Alors, j'ai interrogé le ministère de la Transition écologique, mais dans la mesure où la demande française du maire, de l'ancien maire de Grande-Synthe a été rejeté. Il n'y a pas eu de réaction.
Sauf que ça oblige, Arnaud Gosselin, je passe sous votre contrôle, ça oblige quand même l'ensemble des États. Enfin, tout le monde ne peut pas s'en laver les mains.
À très court terme, cet arrêt oblige la Suisse, et notamment à faire un chèque à cette association.
À quelle échéance d'ailleurs?
La Suisse a 3 mois pour verser 80 000 euros à cette association. Mais ce n'est évidemment pas ce qui était recherché par l'association. Non, lorsqu'on lit l'arrêt, toute une partie de l'arrêt, très didactique, pédagogique, très détaillée, précise quelles sont les obligations positives des États en général, évidemment ceux membres du Conseil de l'Europe, mais des États en général face au changement climatique. C'est la partie la plus importante. Et la France aurait bien tort de s'épargner la lecture de ce passage de l'arrêt, car demain, qui sait, il y aura peut-être un recours, peut-être même devant un juge national qui pourra appliquer la Convention européenne des droits de l'homme tel que la Cour propose de le faire, et reprocher à la France les lacunes de son droit, parce que la France aujourd'hui a des lacunes. Il y a notamment un projet de loi de programmation pluriannuelle de l'énergie qui est attendu depuis juillet 2023 et qui aurait dû être voté depuis et qui n'a toujours pas été présenté au Parlement au motif que les élections européennes dérangeraient le débat.
Mais vous voulez dire que ça peut faire l'objet du coup
aujourd'hui ouais. Ne peut
Pardonnez-moi, ça peut faire du coup l'objet, ce retard peut rendre la France condamnable, c'est ça que vous voulez dire?
Alors attention, je ne voudrais pas donner d'idée de recours, c'est pas du tout mon rôle.
Puisqu'elle puisse être poursuivie, quoi.
Oui, c'est ça. Alors ceci étant, je le répète, la Cour européenne des droits de l'homme a fortement élevé le niveau d'exigence qui pèse sur les requérants qui souhaiteraient la saisir. Non seulement il faut saisir l'État dans lequel vous êtes résident, non seulement il faut épuiser les voies de recours nationales, mais ensuite il faut démontrer que l'on est victime au sens de la Convention, comme M. Damien Carême n'a pas rapporté cette preuve. Et donc ça fait quand même beaucoup de conditions pour saisir la Cour. Mais un jour ou l'autre, peut-être que la France sera interrogée.
C'est une décision en tout cas qui tombe alors qu'on a aujourd'hui les chiffres de l'Institut Copernicus qui tombent régulièrement mais qui nous rappelle et qui nous informe que les 12 derniers mois ont été les plus chauds jamais enregistrés dans le monde, 1,58 degré de plus que dans le climat de la planète au 19e siècle. Le hasard fait quand même les choses efficacement, on va dire.
Ça pose deux questions. D'abord, celle de l'objectif Paris, l'objectif de 1,5. On comprend très clairement qu'il est de plus en plus intenable tel quel. Alors, qu'est-ce qu'il faut-il faire? Est-ce qu'il faut définir un autre objectif? Est-ce qu'il faut tenter quand même d'arriver au plus proche? Ça, c'est des questions qui se posent à nos gouvernants. Et puis, le deuxième, il se pose plus à aux particuliers. Vous savez, on entend très régulièrement « Oh, mais cet automne, ce printemps a été pluvieux, froid, etc. » C'est oublier que c'est un phénomène de réchauffement mondial et qu'il ne faut pas mesurer à l'aune de la météo chez soi, mais au niveau climatique mondial, au réchauffement global des océans, par exemple.
Pardon, non, Elisabeth,
allez-y. Quand on interroge le gouvernement, il dit qu'il fait sa part. Alors évidemment, le gouvernement, il est sur le court terme. On sait que, par exemple, que MaPrimeRénov pour rénover son logement et le rendre plus étanche, elle est remise en cause par les problèmes budgétaires du gouvernement. Quand on interroge Emmanuel Macron, il dit voilà, la France fait sa part avec le plan hydrogène, avec les voitures électriques, et pour l'instant, on est sur le bon chemin. Mais ce n'est évidemment pas suffisant, et c'est évidemment un problème mondial.
Deux choses. Cette décision, il ne faut pas oublier qu'elle va faire jurisprudence. On a commencé cette émission en disant que c'est la première fois qu'un État est condamné par la CEDH, donc ça ouvre une brèche en quelque sorte. Et évidemment, pour répondre à votre question de tout à l'heure, Bérangère, c'est-à-dire qu'à l'avenir, la France est potentiellement condamnable. Et puis, l'autre aspect, c'est que c'est une décision juridique, mais qui aura forcément à long terme des conséquences aussi politiques. Et on voit bien, dans ce que dit Karim Adeli, eurodéputée écologiste sortante d'ailleurs, que c'est déjà un argument utilisé par les politiques de dire, moi si j'avais été au gouvernement aujourd'hui, peut-être que la donne n'aurait pas été la même. Et Emmanuel Macron, il a aussi un angle mort dans sa politique, c'est cette inaction climatique sur laquelle ses adversaires politiques vont régulièrement le chercher. Et l'écologie est pour lui un angle mort sur lequel les oppositions essayent régulièrement d'enfoncer un coin. Donc il y a évidemment là-dessus aussi une manœuvre politique, ou en tout cas une sphère politique à prendre en compte.
Juste pour conclure, Arnaud Gosselin, je rebondis sur ce que disait Alban Micosi sur les engagements de l'accord de Paris. Ça, c'est quelque chose qui peut atterrir devant les tribunaux. Il peut y avoir une poursuite de se dire, voilà, tous ces États se sont engagés, savaient-ils ou pas, c'est difficile à dire, mais qu'ils n'y arriveraient pas, qu'ils ne comptaient pas mettre en tout cas, ils n'ont pas mis les moyens pour y arriver. Et en tout cas, le résultat est là. Est-ce que ça peut atterrir devant la Cour européenne des droits de l'homme ou devant un tribunal?
Alors devant un tribunal, qu'il soit national, européen, vous ne pouvez pas directement invoquer les dispositions, les objectifs de l'accord de Paris, de la COP21 qui s'était déroulé à Paris justement. Ce n'est pas possible. Mais c'est ce qu'on appelle un outil d'interprétation. C'est-à-dire que le juge, et d'ailleurs le Conseil d'État dans l'affaire Grande-Synthe de 2020 puis 2021 l'a déjà fait, le juge peut se servir de l'accord de Paris pour interpréter les lois nationales. C'est-à-dire qu'il peut aussi vérifier la qualité des engagements qui sont pris par les États au regard de ce à quoi les États eux-mêmes se sont engagés en signant l'accord de Paris. Donc cet accord a un effet indirect, ne peut pas être directement invoqué, mais oui, évidemment, il serait tout à fait idiot de considérer que c'est juste un accord de papier. Les juges sont de plus en plus sensibles aux engagements, aux devoirs de cohérence des gouvernants lorsqu'ils parlent de changement climatique. L'époque où les gouvernants se disaient « je peux faire des discours sur la scène internationale et une fois rentré à la maison, je vais surtout écouter les personnes qui ne souhaitent pas avancer en matière de changement climatique ». Cette époque-là, les juges nous disent que c'est révolu.
20h, 21h, France Info, les informés, Bérangère Bonte.
En compagnie ce soir d'Alban Micosi, France Télévisions, Paul Barcelone de France Info et Elisabeth Pinault de l'agence Reuters. On en vient donc à cette tribune publiée dans 4 quotidiens, dont Le Monde, 3 chefs d'État, le français Macron, l'égyptien Al-Sissi et le jordanien Abdallah II, qui signent donc une tribune pour appeler à un cessez-le-feu immédiat à Gaza. Ils expliquent aussi qu'une offensive à Rafah ne ferait qu'accroître les pertes humaines et les souffrances, aggraver le risque et les conséquences d'un déplacement forcé massif de la population de Gaza et entraîner une menace d'escalade dans la région. Tout cela en réclamant, par ailleurs, en même temps, la libération de tous les otages. On va entendre 2 réactions avant d'en parler. D'abord, Fabien Roussel, le patron du Parti communiste français.
Enfin, je dirais, c'est écrit noir sur blanc avec 2 chefs d'État concernés. Ça intervient 6 mois après cette intervention. Tout ça, c'est bien mou de la part de la France, qui peut être un peu leader au sein de l'Union européenne. Si la France a une chose à faire, une chose, c'est de reconnaître l'État de Palestine, parce que c'est un acte politique fort qui aurait une résonance sur la scène internationale.
Voilà, Fabien Roussel qui, dans la foulée, demande aussi des sanctions économiques. Deuxième réaction, l'avocat Johan Soufi, qui a été responsable du département juridique de l'Agence des Nations Unies pour les réfugiés palestiniens à Gaza jusqu'en 2023. Il est plutôt partagé, écoutez.
Sur le fond, cette tribune est bienvenue parce qu'elle constate que la guerre est une impasse et que seules des mesures diplomatiques et humanitaires sont aujourd'hui en mesure d'apporter une solution. Mais sur la forme, effectivement, on peut s'interroger sur le fait que les présidents de trois États, dont une puissance nucléaire et un membre permanent du Conseil de sécurité pour la France, la principale puissance militaire en Afrique pour l'Égypte, eh bien, se retrouvent si impuissants qu'ils en sont réduits à écrire une tribune dans un journal comme n'importe quel membre de la société civile.
Voilà, Joanne Soufis sur France Info. Alban Micosi, vous êtes d'accord, ils sont tellement impuissants qu'ils n'ont plus que la plume et le stylo ou le stylo. Alors, pour
je suis
se battre.
Pas du tout d'accord avec ce qui vient d'être dit par Joanne Soufis. Un peu plus loin, il dit qu'il faudrait des vraies sanctions contre Israël, comme elles existent contre la Russie, et notamment un embargo sur les armes. Alors, premièrement, rappelons que l'embargo sur les armes contre la Russie, il n'existe pas, puisque que ce soit l'Iran ou la Corée du Nord, il y a une livraison d'armes régulière. Deuxièmement, qu'un certain nombre de pays ont pris la responsabilité de ne plus vendre d'armes à Israël et que pour l'instant, ça n'a pas mis fin du tout à l'opération. L'intérêt de la tribune, à mon avis, il est double. D'abord, il rappelle qu'il y a une résolution qui a été votée la semaine dernière par le Conseil de sécurité de l'ONU. C'était pas il y a 6 mois, c'était la semaine dernière, exigeant l'arrêt des combats.
Dont on n'a pas l'impression qu'elle ait produit un effet, enfin un coup de tonnerre en Israël.
Alors, oui,
on
mais non.
Même pas appliqué, en fait.
Non, mais oui. Ce qu'il faut remarquer, c'est qu'il y a quand même des lignes qui sont en train de bouger. Alors, la première ligne qui est en train de bouger, c'est l'aide humanitaire. Vous savez, l'aide humanitaire, Bérangère, jusqu'alors, c'était une moyenne de 10 camions par jour. Hier, il en est passé 481. Alors, évidemment,
il en faudrait...
ça ne résout pas. Il en faudrait 500 par jour et pendant 6 mois. Donc, évidemment, ça ne résout pas en une seule journée la situation épouvantable dans laquelle sont les habitants de Gaza. Mais c'est le signe que quelque chose est en train de bouger. Et puis, deuxièmement, qu'est-ce qu'ils font, les trois chefs d'État? Ils font un peu de politique. À qui ils parlent? Pas aux lecteurs du Monde, pas à nous. Ils sont en train de parler au gouvernement américain. Évidemment. En leur disant une bonne fois pour toutes, Joe Biden, assumez vos responsabilités. Si quelqu'un peut faire bouger Netanyahou, c'est vous. Donc il y a un lecteur, c'est Joe Biden.
Juste rebondis sur les 450 camions. Ok, très bien. C'est aussi ces derniers jours la mort de ces 7 humanitaires. Je veux dire, quand on dit qu'il y a eu un électrochoc, la pression a changé côté américain, etc. C'est quand même
un
peu plus compliqué.
En tout cas, il y a l'ouverture de 3 points de passage. Il y a quelques signes que Israël prend en compte la situation humanitaire désastreuse dans laquelle elle a placé ce territoire.
Bon, tribune intéressante, en tout cas pour vous.
Oui.
Paul Barcelone.
Oui, je suis d'accord avec ce que disait Alban sur la résolution qui doit diplomatiquement mettre la pression, et cette tribune est là aussi pour ça, alors que se joue en ce moment le Conseil de sécurité des Nations Unies, c'est extrêmement important pour la suite, etc. Donc, d'accord sur le point de l'impuissance. Ensuite, quel est le contexte de cette tribune? C'est la fin ce soir du Ramadan. On voit que la situation, entre guillemets, n'avance pas, et ce sont d'ailleurs un peu les éléments de langage des diplomates autour d'Emmanuel Macron qui disent la situation est enlisée, on est obligé à un moment d'écrire, de mettre la pression et les mots ont leur importance. Cessez le feu immédiat et permanent, c'est écrit noir sur blanc avec des partenaires arabes dans la région, l'Égypte, la Jordanie, qui sont un peu des pôles de stabilité, si j'ose dire, dans la région. On sait que notamment Al-Sisi, c'est un partenaire d'Emmanuel Macron. Emmanuel Macron le considère beaucoup, le chef d'État égyptien. Il le voit en marge de tous les sommets internationaux. C'est le cas aussi pour Abdallah, qui est régulièrement venu à Paris, le chef d'État jordanien. Donc, il y a la volonté pour Emmanuel Macron, aussi sur la forme, de s'afficher avec ces partenaires-là. Et c'est pas un détail. L'Égypte a une frontière avec Gaza.
Quand on parle de Rafah, ça les concerne.
C'est un négociateur depuis le début. Il y a la question de la libération des otages. L'Égypte avait signé la paix dès 1979 avec Israël. C'est un partenaire extrêmement important dans la région. Donc, cette tribune-là, ça n'est pas qu'un aveu d'impuissance.
Elisabeth Pinault.
C'est aussi une façon de prendre les opinions à témoin de cette pression faite sur Joe Biden. La tribune a été publiée donc dans Le Monde, dans le Washington Post et dans 2 journaux arabophones. Donc, c'est quand même important, c'est que c'est quand même mondial. Et puis, en effet, vous l'avez dit, Emmanuel Macron veut s'afficher avec ses 2 dirigeants, notamment le jordanien. Il est allé en Jordanie. La France a procédé à des largages humanitaires sur Gaza avec la Jordanie. Donc, oui, c'est une pression de plus. Et évidemment, les messages sont toujours les mêmes, avec évidemment un mot pesé, un cessez-le-feu permanent, immédiat et permanent, une solution à 2 États, une aide humanitaire massive. Et c'est des messages qui se répète, mais qu'il faut répéter pour que la pression continue.
C'est une initiative de Paris, on sait ça.
Ça, je ne sais pas. Je pense que je ne sais pas si c'est
une initiative concertée.
Oui.
Juste un mot pour dire.
De toute façon, ils se parlent régulièrement.
Il se passe des choses très importantes au Caire actuellement, puisque il y a cette négociation dont on va parler, j'imagine.
Exactement. Parfait. Juste après le point sur l'info, vous nous direz peut-être aussi, Alban, pourquoi la France n'a jamais reconnu l'État de Palestine en ces termes-là, en tout cas, alors que une centaine de pays l'ont fait.
20h, 21h, France Info, les informés. Bérangère Bonte.
En compagnie ce soir de Paul Barcelone du service politique de France Info, Elisabeth Pinault, correspondante à l'Élysée à Matignon pour l'agence Reuters, et Alban Micosi, spécialiste de politique internationale, grand reporter à France Télévisions. Alors on parle de cette tribune et on en venait juste avant la pause, Alban Micosi, à ces négociations au Caire. On l'entendait dans le point sur l'info. Le Hamas dit que le compte n'y est pas. La Maison Blanche juge ce soir ses déclarations. Pas très encourageante.
En fait, il y a un vrai point de blocage.
Tous les soirs, en fait, j'ai l'impression qu'à cette heure-ci, on en est à peu près au
décalage horaire. Il y a un vrai point de blocage que pour l'instant, les négociateurs ne savent pas dépasser, qui est la libération des otages inconditionnels contre la libération de prisonniers politiques palestiniens. Le Hamas estime que les Israéliens, en fait, vont attendre que les otages soient libérés pour reprendre l'action militaire. Et qu'en réalité, une fois que le Hamas n'aura plus d'otages, la répression israélienne reprendra et de manière encore plus importante. Et donc, pour le Hamas, c'est une carte particulièrement importante. Le Hamas ne veut pas s'engager si Israël ne s'engage pas de manière pérenne, définitive et durable sur l'arrêt des bombardements. Là, on n'en est pas là, puisque Benjamin Netanyahou aujourd'hui même a dit qu'il connaissait la date de l'intervention à Rafah. Donc vous voyez très clairement que le monde essaie de rapprocher deux parties qui, le Hamas comme le gouvernement de Benjamin Netanyahou, sont les deux parties qui freinent et qui sont les plus bellicistes.
Qui n'ont pas l'un et l'autre, effectivement, intérêt à ce
qui n'ont pas intérêt. Pour être clair, Benjamin Netanyahou, s'il y avait des élections aujourd'hui, il n'est pas sûr de les gagner du tout. Or, tant qu'il y a la guerre, il n'y a pas d'élection.
Où est la clé ? Qui a la clé ?
C'est très difficile. C'est très difficile parce qu'effectivement, les deux seuls qui peuvent arrêter le conflit aujourd'hui, c'est le gouvernement israélien et le Hamas. Donc, il faut peser sur le gouvernement israélien et sur le Hamas en même temps pour obtenir de l'un et de l'autre les deux clés qui libéreraient la possibilité d'un cessez-le-feu. C'est le feu durable, voire définitif.
C'est ce qu'essayent de faire les trois chefs d'État dans cette tribune. Mais je reviens à ce qu'on disait juste avant la pause info sur cesser le feu immédiat et permanent qui dépasse cette trêve de Ramadan. C'est là, si j'ose dire, Emmanuel Macron, il reprend son bâton de pèlerin. Il a été moqué, notamment au départ, sur ses positions sur ce conflit, qui avait évidemment fait couler beaucoup d'encre, etc. Mais la version de l'Élysée est plutôt de dire que lui a tenu une position constante, essayant de ménager, et comme le rappelait Alban, à la fois de peser sur le Hamas et aussi sur le gouvernement de Benjamin Netanyahou. C'est une situation qui est extrêmement difficile et presque inextricable.
L'Élysée parle encore à Benjamin Netanyahou, Elisabeth Pinault.
Je n'ai pas souvenir d'échanges récents.
Aux autres, c'est passé.
Je n'ai pas aussi.
Si, mais il lui a beaucoup
récemment,
parlé.
Non, mais je dis récemment.
D'échanges récents, bien sûr, il lui a beaucoup parlé. D'échanges récents, je n'ai pas souvenir.
Alban Micosi.
C'est très compliqué parce que le gouvernement de Benjamin Netanyahou, qui s'appuie sur sa droite, regarde avec intérêt les élections américaines et l'éventuel soutien de Donald Trump. C'est-à-dire qu'en vérité, les Israéliens jouent déjà le pourrissement de la situation jusqu'à l'élection potentielle de Donald Trump.
Et ça, en cédant 6 mois, un peu plus.
Et c'est tenu qu'au mois de novembre.
Juste la question que je posais juste avant la pause. Pourquoi la France n'a jamais reconnu l'État de Palestine en ces termes-là? Ça remonte à 88, cette proclamation par les Palestiniens. 94 pays l'avaient tout de suite validé, puis il y en a d'autres qui se sont rajoutés. Aujourd'hui, il y a 9 États membres de l'Union européenne, par exemple, sur 27. Puis alors, il y a des appellations différentes.
On va dire que la communauté internationale, je veux dire, les grands États traditionnels occidentaux, c'est-à-dire les États-Unis, la France, l'Angleterre, ont été les moins allants dans cette question. C'est d'ailleurs étonnant parce qu'en décembre 2014, la question s'est posée après un vote de l'Assemblée nationale demandant au gouvernement français de se prononcer sur cette question. Et c'était le président François Hollande qui était à l'époque au pouvoir. Et ils ont estimé à l'époque que tant que la question des frontières n'était pas clairement réglée, quand que la question de l'exécutif palestinien au pouvoir n'était pas clairement réglée, cette question de l'État n'était pas prioritaire. Il fallait d'abord avancer sur ces deux points avant de reconnaître un État clairement inscrit dans un espace géographique avec un espace politique. Se pose en plus un deuxième problème. Qu'est-ce qu'on reconnaît ? L'État palestinien, est-ce qu'on reconnaît à l'intérieur la bande de Gaza? Est-ce qu'on estime que le pouvoir du Hamas, vous savez qu'il n'y a pas eu d'élection depuis 2006, est-ce que le Hamas est un partenaire d'exécutif régulièrement élu? Ça, là-dessus, il y a encore des freins dans un certain nombre de pays occidentaux.
Mais la centaine de pays qui ont reconnu l'État palestinien se posent la question dans les mêmes termes?
Alors non, un certain nombre de pays. Les premiers sont les pays africains et puis les pays globalement qu'on appelle aujourd'hui des BRICS, qui sont aller très largement dans la reconnaissance de l'État palestinien. Ça a été beaucoup plus compliqué chez les Occidentaux. Curieusement, c'est le Vatican, le premier pays occidental, qui reconnaît l'État de Palestine. Ensuite, un certain nombre de pays européens vont suivre, avec notamment d'abord l'Europe centrale. Et l'ancien bloc soviétique. Même si la Russie n'a pas toujours été claire sur cette question. Vous voyez, en fait, très clairement, il y a eu des blocages. Un habillage juridique de blocage politique.
Et la question se pose aussi parce que quand on parle de cette solution à deux États très régulièrement, deux États, il en faut deux.
La France, d'ailleurs.
C'est-à-dire que très clairement, la France
mais s'il y a pas d'État
croit
palestinien,
en une position à une solution à deux États. Reste maintenant à définir exactement ce qu'on appelle l'État de Palestine.
Ça, c'est extrêmement difficile parce que c'est aussi une question politique dans le pays. Mais c'est effectivement important de rappeler que la France défend historiquement cette solution à deux États. Et Emmanuel Macron n'a pas manqué de le rappeler systématiquement. À chacune de ses interventions sur ce sujet, Israël-Gaza, dès le 7 octobre, que la solution passait par une solution à deux États, si j'ose dire. Et ça fait partie du package de solutions politiques qu'il essaye de pousser. Et là encore, ce sont des termes qu'on retrouve dans la tribune d'hier.
Il y a eu d'autres tribunes, d'autres prises de parole à travers le monde, outre les résolutions, la résolution de l'ONU, Alban Micosi, de ce type-là.
Alors, de ce type, clairement, multinational, j'allais dire, non. À ma connaissance, c'est effectivement la première intervention de trois États qui ont un rôle important, dans le dispositif de paix. Après, il y a des interventions par pays par pays, et même Joe Biden aux États-Unis a publié un certain nombre de communiqués disant clairement, très clairement, quelle était la position de la Maison-Blanche.
Évidemment, c'est la voix de Joe Biden qu'on attend en priorité. C'est lui qui a la clé pour Israël. Et Emmanuel Macron était l'un des premiers à taper du poing sur la table face à la souffrance des Palestiniens à Gaza.
Ça a été. Mais les choses sont peut-être en train de bouger. Aujourd'hui même, le président turc Recep Tayyip Erdogan a mis fin à l'accord, parce qu'assez curieusement, il y avait encore un accord militaire entre Israël et la Turquie. C'est-à-dire que jusqu'à là, la Russie fournissait, c'est encore le cas en janvier-février, des armes à Israël. Ça paraît incroyable, mais c'était le cas. Et là, Recep Tayyip Erdogan, il met fin officiellement aujourd'hui. Donc, il y a un certain nombre de lignes. Encore une fois, c'est pas les plus évidentes, mais un certain nombre de lignes.
Ça représente quelle part de l'armement israélien?
Alors, vous savez, l'armement israélien, les exportations sont à 85% américaines. Mais l'Allemagne est le numéro 2 et la Turquie est le numéro 3.
Et symboliquement, c'est évidemment...
C'est supérieur, par exemple, à la France.
20h, 21h, France Info, les informés, Bérangère Bonte.
En compagnie ce soir d'Elisabeth Pinault de l'agence Reuters, Paul Barcelone de France Info et Alban Micosi de France Télévisions. Alors, ces européennes, nous sommes le 9 avril, messieurs, madame. Dans deux mois pile, le 9 juin, nous serons appelés à voter pour les élections européennes. Ce qui frappe, c'est que le RN survole tous les sondages. Et on va en parler. Rien ne semble, le changer quoi que ce soit à cette situation. Au contraire, la deuxième chose, c'est que tous les uns les autres répètent. Non, mais la campagne n'a pas commencé. Elle a commencé cette campagne pour le Barcelone, oui
je
ou non
pas, moi, je pense déjà que le fait de dire et d'avoir fait des européennes un thème ce soir désinformé, ça va éclairer certains de nos auditeurs. Et je suis sûr que le fait que vous ayez dit. Dans deux mois, il y a un scrutin européen, ça veut dire le 9 juin, il faut aller voter. Je pense qu'il y a certains de nos auditeurs ou téléspectateurs qui l'apprennent probablement. Il y a un vrai déficit de notoriété sur les élections européennes. Déjà, l'abstention est record scrutin après scrutin, mais je pense que là, ce coup-ci, il y a aussi un vrai enjeu sur la participation et ne serait-ce que la connaissance même de cette élection. Ensuite, sur l'observation, sur les sondages. Effectivement, Jordan Bardella, tête de liste du Rassemblement national, caracole en tête.
Donc on est à 30%, là, le dernier sondage, on va dire, Elab, on pourrait en citer beaucoup, mais en gros...
Il y en aura bientôt sondages... un pour France Info, samedi après-midi.
Il arrive samedi, vous faites bien de le dire. 30 pour la liste RN, 16,5 pour la liste AIE, Renaissance, et Raphaël Glucksmann, la liste Place Publique PS, est à 12.
Voilà, au vu des sondages, la vraie question qui se pose, c'est de savoir combien sera l'écart entre le Rassemblement National et la liste du parti d'Emmanuel Macron, effectivement représentée par Valérie Ayer. Est-ce que Jordan Bardella peut dépasser la barre qui serait symbolique des 30% pour peut-être aller flirter, comme certains sondages le disent, les 32%? Quel sera donc l'écart avec son successeur, la deuxième position? Et surtout, est-ce que le parti d'Emmanuel Macron, la liste d'Emmanuel Macron Renaissance, va être capable de se maintenir en deuxième place, alors que c'est Raphaël Glucksmann, parti socialiste Place Publique pour la gauche, qui semble avoir en ce moment le vent en poupe et qui se trouve aujourd'hui troisième?
Si on reste un instant sur le RN... Comment vous expliquez que les différents, je sais pas comment les appeler, des péripéties, des accidents de parcours, l'arrivée par exemple chaotique de l'essayiste Malika Sorel, ne semble pas leur coûter quoi que ce soit. On rappelle juste, elle avait fait des offres de service, elle l'a confirmé d'ailleurs à Emmanuel Macron.
En lui envoyant des textos, problème. En lui disant « je suis disponible pour le ministère de la Culture ».
Avec insistance, etc. Le fait de ne pas débattre demain pour Jordan Bardella, un autre candidat le ferait, ça lui serait reproché. Là, non. Et on pourrait continuer la liste. Elisabeth Pinault.
Oui, en effet, le Rassemblement national est un peu sur un tapis volant en ce moment. On a l'impression que
c'est la primo leader. Alors, c'est un phénomène
de toute façon, oui, il profite aussi de la faiblesse des autres. On a le camp présidentiel qui est quand même confronté à pas mal de difficultés, à l'usure du pouvoir, aux questions, aux problèmes budgétaires de la semaine dernière qui quand même portent un coup dans un domaine où ils étaient censés être quand même un peu spécialistes. Et puis la gauche est divisée et le Rassemblement national reste évidemment très clair dans ses messages. Il parle peu, tout est bien ordonné. Jordan Bardella et Marine Le Pen ont les clés de tout. Il n'y a pas de bazar, il n'y a pas de petites phrases, il y a toujours énormément de discipline. Un message très clair. Jordan Bardella dit ces élections seront un référendum sur l'immigration. Voilà, ça tient en une phrase. Il y a vraiment un message clair qui fait qu'il profite en effet. Et puis en plus, il y a quelque chose dans l'air du temps mondial. Hein, les populistes, sont très haut perchés. Et puis en effet, l'entreprise de dédiabolisation semble porter ses fruits. C'est sûr que par exemple, Jordan Bardella va beaucoup dans les cercles des chefs d'entreprise, des cercles économiques, qui est un peu.
Mais là aussi, ça s'est pas très bien passé. Avec la CPME.
Il y a eu évidemment, il a dit quelque chose.
Et même si c'était qu'un petit moment de cette rencontre.
Oui, mais cette rencontre, moi j'y étais. Ouais. Il y avait énormément de monde et il y avait beaucoup de journalistes. Voilà, et à chaque rendez-vous.
On rappelle, s'il s'est trompé sur le délai.
Oui, sur le délai de
devant seuil. La CPME.
Devant la CPME. Oui,
il a été corrigé en direct par un des dirigeants de la CPME.
Par le dirigeant de la CPME. 3 ans, 5 ans sur un délai.
Voilà. Il a dit on portera le délai de tolérance à 3 ans. Et le président de la CPME lui a dit c'est déjà 5 ans. Donc voilà. Mais à part ça, il a tenu sur les questions économiques pendant une heure face aux questions des auditeurs. Bon, des spectateurs qui étaient devant lui et ils étaient nombreux. Et on sent que. En tout cas, les chefs d'entreprise et en tout cas le Rassemblement national essaye de montrer qu'il peut diriger le pays.
Et de ce que vous en aviez vu justement cette rencontre-là, les échos étaient plutôt favorables. Il y avait une curiosité, il y avait un
favorable, je n'irai pas
intérêt,
jusque-là.
En tout cas,
il y a de toute façon
un
intérêt
plus positif que par le passé.
Moi, j'ai
peut-être.
Suivi Jordan Bardella devant le mouvement éthique, par exemple, qui est un mouvement patronal la semaine dernière. Il y avait d'autres candidats, mais il a été à l'applaudimètre. Sans doute le plus applaudi. Ah oui. À la fin, il fait des selfies avec plusieurs personnes. Partout où il va, il fait des selfies, Jordan Bardella. Il y a quelque chose qui fonctionne avec sa
personnalité.
Il a un compte TikTok qui fonctionne très très bien auprès des jeunes. Voilà, il y a une campagne qui est enclenchée au Rassemblement.
À la personnalité et au contexte européen, où on oublie que ce sont des élections européennes. C'est amusant de regarder ce qui se passe, c'est intéressant de regarder ce qui se passe chez nos voisins. Partout chez nos voisins, les mouvements nationalistes, populistes ont le vent en poupe avec deux arguments arguments qui peuvent s'appliquer d'ailleurs au Rassemblement national aujourd'hui. D'abord, cette peur de la perte d'identité, de déclassement que moi j'entends dans tous les pays européens dans lesquels je me rends. J'entends systématiquement sa montée, cette musique, que ce soit par exemple en Roumanie avec le mouvement Aour ou au Portugal qui était, Dieu sait, un pays très très loin de l'extrême droite jusqu'alors. Donc il y a cette volonté de retrouver ses origines, je ne sais pas comment baptiser ça, en tout cas une peur de la perte d'identité sur laquelle le Rassemblement national a construit quand même beaucoup de son discours. Et puis deuxièmement, cette volonté de remplacer les équipes actuelles. Il y a, si le terme de dégagisme existe toujours en France, mais en tout cas très clairement, moi j'entends très régulièrement dans les pays voisins dire « ça ne va pas le fonctionnement de l'Europe actuelle ». Et ceux-là, on les a jamais essayés. Finalement, c'est là-dessus que Mme Meloni, par exemple, avait construit son succès. Moi, on ne m'a jamais essayé.
En tout cas, italienne que vous connaissez bien pour y avoir été en poste.
Paul, pour rejoindre ce que disait Elisabeth tout à l'heure, effectivement, Jordan Bardella, candidat un peu TikTok, ça marche bien sur les réseaux sociaux, candidat identifié, il y a un vrai défi notoriété et on peut penser qu'il coche cette case. Et il y a aussi la stratégie du coup de com' permanent. Aujourd'hui, le RN a annoncé le ralliement de Mathieu Vallée, qui est un ancien commissaire de police, un ancien syndicaliste policier.
Ancien numéro 2 de la brigade anticriminalité du
qui écume les chaînes de télé et d'infos en continu. On a parlé de Malika Sorel tout à l'heure. Il y a aussi Fabrice Leggeri, qui est l'ancien patron de Frontex. Donc, ils essayent de montrer, au-delà des interventions dans les forums économiques et dans les réunions d'affaires, que le monde économique les soutient. Ils veulent aussi montrer qu'il y a tout un écosystème maintenant qui se rallie à eux, avec des gens d'expérience, des gens capés, des gens identifiés. Cela participe aussi de ça en disant notre com, elle se base aussi sur le rallye de non et de non de renom si possible, alors dans la limite du renom qu'ont ces personnalités-là, mais avec la volonté de dire on n'effraie plus et on ne fait plus forcément peur, essayez-nous, testez-nous.
Prochaine étape, le 1er mai, ils vont dévoiler l'ensemble de leurs lignes. 1er mai, date symbolique pour le Rassemblement National et avant lui le Front National. Et je crois qu'ils feront un meeting à Perpignan, la plus grande ville remportée par
le
Rassemblement National. La ligne et l'ensemble de la liste.
Les 30 noms, ouais.
Et on verra s'il y a des personnalités du monde économique dans cette liste.
Les 30 premiers noms, ouais, dévoilés le 1er mai. Et simplement, en deux mots, ils bénéficient aussi, et Elisabeth le disait tout à l'heure, de l'affaiblissement de leurs adversaires, particulièrement de Valérie Ayé, qui est en quelque sorte comptable aussi de la politique du gouvernement, de l'usure du pouvoir, la crise agricole, les finances publiques, la succession de faits divers qui tournent peut-être au fait de société avec ce phénomène de violence dans les écoles, etc., qui font une succession de crises à gérer à la fois pour Emmanuel Macron et Gabriel Attal, qui nuisent de fait à l'électorat d'Emmanuel Macron, ou en tout cas à la dynamique sondagière autour de la liste du parti du chef de l'État. Mmh. Et forcément, cela bénéficie ou fait les affaires en tout cas du RN.
20h, 21h, France Info, les informés, Bérangère Bonte.
À deux mois pile des européennes, on parle de ce scrutin du 9 juin avec Elisabeth Pinault de Reuters, Paul Barcelone de France Info et Alban Micosi de France Télévisions. On parlait donc de ce RN qui caracole en tête, donc avec une campagne quand même qui n'a pas officiellement démarré. Ce sera c'est 6 semaines avant.
Oui, il me semble que ce sera début mai.
Début mai, là, à ce stade...
Oui, alors c'est très tôt. Hein. Là, déjà, j'étais à l'Assemblée aujourd'hui, le message général, c'est quand même restons calmes, on est à deux mois, c'est très long en politique.
Alors déjà, est-ce que quelque chose peut les faire redescendre, le RN, ou est-ce que c'est le réveil des autres listes
Monde est d'accord
et le début de campagne
dire,
des autres qui va... Qui...
Y compris le camp présidentiel, que le RN va être très haut. Alors que, rappelons que la dernière fois, ils étaient au coude à coude avec le parti présidentiel, ils avaient envoyé le même nombre de députés à Strasbourg. Donc ça, tout le monde est d'accord pour dire que le RN sera en tête, ça, il n'y a aucun doute là-dessus, et largement en tête, sans doute. Le camp présidentiel espère toujours garder son socle, qui est d'environ 20-22%. C'est peut-être un vœu pieux, on verra. En tout cas, la campagne n'a pas démarré. On ne sait pas encore si Emmanuel Macron va s'impliquer. La candidate est méconnue, ils ont commencé les tractages, voilà. Plein de choses peuvent se passer. En deux mois, il peut y avoir des faits divers.
On en a parlé plusieurs fois déjà. Qu'est-ce qu'il attend?
Alors, il peut faire un grand discours sur l'Europe. Oui. On parle beaucoup en ce moment d'un Sorbonne 2 qu'il serait en train de préparer. Le Sorbonne 1 étant son grand discours post-élection en 2017 dans l'amphithéâtre de la Sorbonne, où il fait un discours presque fondateur, en tout cas les macronistes le présentent comme tel, sur sa politique en matière d'Europe, avec quand même, et il faut l'avoir à l'esprit, l'idée que dès 2017, la candidature d'Emmanuel Macron s'accompagne de meetings où les militants tiennent des drapeaux européens, et ça a été une constante encore en 2022, ce sera encore le cas cette année avec ces élections européennes, comme si l'Europe, l'Union européenne, le drapeau européen était une forme d'ADN pour le camp d'Emmanuel Macron. Et il y a là une sorte de paradoxe à se dire que ça se trouve la liste du chef de l'État qui a tout misé sur l'Europe, qui fait de l'Europe un élément fondateur de sa politique, va se retrouver malmené, voire battu par un parti, le Rassemblement National, qui fait exactement le contraire et capitalise lui, ou a même capitalisé lui, fut un temps, sur une sortie de l'Europe, on se souvient du Frexit, même si le RN a depuis changé de ligne. Mais là, il y a là une forme de paradoxe à se dire, il faut que Emmanuel Macron retrouve ce socle alors même que c'est son ADN et ce sur quoi il a voulu capitaliser dès 2017.
En tout cas, la campagne, telle que vue par le camp présidentiel, c'est bien d'européaniser, ils ont fait ce néologisme aujourd'hui, la campagne, à l'image du slogan qui fait « besoin d'Europe ». Voilà, nous, le parti européen, c'est nous. Ce sera le message et ils espèrent récupérer leur socle avec ce
tête de liste, ce slogan. Est-ce qu'il y a un sujet déjà? Est-ce qu'il faut lui laisser du temps? C'est quelqu'un qui connaît
c'est comme
très
Nathalie
bien
Loiseau.
La machine européenne. Exactement, c'est
personne
exactement
ne la connaissait.
Sauf que ça a été compliqué. Enfin, en tout cas, l'atterrissage après coup a été compliqué.
Oui, mais en fait, alors certes, la rumeur qui a beaucoup circulé, ou en tout cas le bruit de couloir qui a beaucoup circulé, a été de dire Valérie Ayé, c'est un peu le choix second couteau. Certes, elle connaît très bien
l'architecture,
le mécano européen, eurodéputée, elle a beaucoup travaillé. Désormais, elle est présidente, on l'a beaucoup dit, du groupe Renew, sont les eurodéputés supporters d'Emmanuel Macron au Parlement européen.
Stéphane Séjourné.
Exactement, quand il a été nommé ministre des Affaires étrangères. Mais en vrai, et ça rejoint ce que je disais précédemment, mais la vraie tête d'affiche de cette campagne, qu'il le veuille ou non, c'est Emmanuel Macron. Et ça rejoint aussi la question de savoir jusqu'où il va s'impliquer. Est-ce que ce sera simplement une vidéo dans un meeting? Est-ce qu'il va s'inviter dans un grand discours type Sorbonne 2? Est-ce qu'il va faire une lettre aux Français? On se souvient qu'il l'avait déjà fait lors d'autres élections. Donc la théorie, ou en tout cas la thèse du camp Macron aujourd'hui, c'est de dire les choses ne sont pas encore cristallisées, les électeurs se décident seulement peut-être 15 jours, 10 jours, une semaine avant d'aller voter, donc tout reste encore possible, même si Jordan Bardella semble irrattrapable.
Est-ce qu'on peut dire un mot de la liste Europe Écologie Les Verts? C'est quand même un scrutin pour eux, entre guillemets, qui ne décolle pas. Est-ce que c'est lié à la tête tête de liste Marie Toussaint qui souffre pour le moins d'un déficit de notoriété? Est-ce que c'est quelque chose qui peut bouger au dernier moment comme la liste Jadot il y a 5 ans?
C'est quand même un phénomène qu'on observe un peu partout en Europe.
Nicosie.
Probablement, les scores des écologistes seront moins importants qu'il y a aux dernières élections européennes. Pourquoi? Il y a multiples raisons. Peut-être finalement que ce changement climatique dont on parle très très régulièrement, il a cristallisé un certain nombre de gens, paradoxalement, contre les mesures écologistes.
Mais le contexte est totalement différent. Normalement, l'élection européenne, elle est plutôt favorable aux écologistes. C'est une élection qui,
depuis
sociologiquement,
les Jamenites, depuis,
voilà, exactement, qui a toujours plutôt
réussi. Et puis c'est le niveau de décision de beaucoup de sujets.
Exactement. Et donc c'est une élection qui a plutôt réussi au vert par le passé et historiquement. Aujourd'hui, le contexte, il est difficile pour eux, aussi parce qu'en 2019, on sortait tout juste des marches climat qui venaient de naître. Aujourd'hui, on est dans une autre forme de mobilisation. La page est presque tournée des marches climat. Il y a moins de souffle derrière cette candidature de Marie Toussaint, qui est par ailleurs là face à un vrai défi de notoriété, elle aussi, face à une gauche qui est presque en reconstruction, Raphaël Glucksmann qui a le vent en poupe, il y a toujours la liste de Jean-Luc Mélenchon, donc la gauche part aussi pas du tout en position d'union, donc ce sont aussi des paramètres à prendre en compte.
La désunion chez les écologistes français, en tout cas, ça peut avoir un rôle, ça démobilise à votre sens?
L'affaire Bayou nuit forcément, même si c'est tarte à la crème de le dire comme ça.
Oui, moi, je pense que c'est pas vraiment ça le problème. Je pense que oui, en effet, je suis d'accord, on n'est pas dans un moment vert en ce moment. Et voilà, ça ne prend pas, alors que Raphaël Glucksmann donne un nouvel espoir à la gauche, visiblement, même si bien sûr les courbes ne se sont pas croisées encore avec le camp présidentiel, on n'en est vraiment pas là.
Et on va continuer à suivre ça, bien sûr. Je vous rappelle un nouveau rendez-vous de Demain l'Europe, après-demain, non pas demain, mercredi, mais jeudi, avec Marion Maréchal, de 8h30 à 9h30. Merci à tous les trois, merci Elisabeth Pinault, agence Reuters, Paul Barcelone pour France Info et Alban Micosi pour France Télévisions. Demain, les informés, c'était à 9h avec Salia Braquia et Benjamin Sportouche. Et nous, on sera là dès 20h. Bonne soirée.